bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, on est vraiment très heureux de vous retrouver en cette nouvelle saison. Une ambiance particulière, certes, mais les librairies sont ouvertes. Il sort beaucoup de romans et des bons. Et donc, pour cette première émission, nous vous avons préparé un cocktail coloré constitué de romans sortis au printemps, en plein confinement, et à qui il faut vraiment donner une chance et une bonne chance. Mais aussi d'ouvrages sortis récemment. En ce début d'émission, trois romans qui ont le gros avantage d'être, malgré les sujets graves et importants qu'ils évoquent, très distrayants, voire drôles, voire de la très belle littérature populaire comme on les aime. Puis deux coucous.
Voilà, avant de commencer de parler de romans, on voudrait d'abord saluer Arthur derrière la vitre, toujours souriant et efficace avec ses petits boutons et ses curseurs.
Et puis aussi dire un grand merci à Vicky, qu'on ne va plus beaucoup voir dans la radio, mais qui sera là un peu à chacune de nos émissions, qui nous a donné notre chance il y a...
longtemps, au siècle dernier.
Au siècle dernier. Et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé tout au long de ses années.
Voilà, et elle a beau faire valoir ses droits à la retraite, elle sera toujours une voix de la culture dans les Alpes-Maritimes, et bien au-delà d'ailleurs.
Et on va commencer, sans transition, on dit tout le temps, on va commencer par Mac-Tac. C'est un roman de Gildas Guyot, et il est sorti cet été, non, septembre, il sort, donc c'est vraiment un roman de la rentrée. Il est sorti aux éditions Inuit. Premier personnage.
Inuit, ça s'écrit N-I-N, 8.
C'est ça. Oui, c'est très bien de le dire parce qu'en plus, vous allez voir que les Inuits ont eu leur importance dans ce roman. Premier personnage, 7, jeune américain. Je dirais normal. Jeune adulte, il se cherche, il se fout de pas mal de choses. Jeune américain, il est fan des Dodgers. Je rappelle l'équipe mythique de baseball de Los Angeles. Il se cave de télévision, comme le Saturday Night Live, de pizza Domino's. Et puis il aime aussi les belles voitures, vous savez, ces voitures mythiques. En particulier la Chevrolet Impala, évidemment année 1967. Mais justement, le grand-père, Hattie, récemment installé à la maison après la mort de sa femme Coco, lui propose un marché. Il lui donne sa cheville, sa Chevrolet.
Sa Chevy,
contre simplement un voyage à Las Vegas. Grand-père, donc, je vous dis, il s'appelle Hattie, je vous ai dit, il s'appelle Hattie, c'est un Inuit. Il a émigré à Los Angeles quand il était jeune, il y a bien longtemps. Voilà comment Gildas Guyot le décrit. Chez Hattie, le sourire était anormalement constant, sculpté parmi les rides, au point qu'il apparaissait compliqué d'imaginer qu'il puisse changer de mou sans que l'écorce ne craque. Pire, les ridules propageaient l'onde de la joie jusqu'aux confins du visage. Le front, les tempes, les pommettes, aucune zone qui ne soit ravinée par le sourire de l'ébloui. Hattie l'avait toujours porté ainsi, et personne jusqu'alors ne s'en était offusqué. La narquoiserie était, de toute manière, inaltérable. Elle faisait partie intégrante de son génome.
C'est joli, la narquoise.
Ben oui, puis ça lui va très bien à ce grand-père. On pourrait rajouter d'ailleurs malicieux, ironique, taquin, diablement intelligent, et puis poète un peu, poète même un peu beaucoup. Hattie attache beaucoup d'importance au choix de ses mots. Il les pèse un par un avant de les utiliser. D'aucuns se méprennent sur son compte en le pensant un peu loquace. Lui s'en défend en prétendant qu'il est efficace. De cette langue d'adoption qu'il a apprise sur le tard, il aime la richesse et les subtilités. Du second degré que l'on peut en tirer, il se réserve l'apanage et gare à celui qui tenterait d'inverser les rôles. Hattie se met rarement en colère, mais il sait mieux que personne renvoyer les bâtons. Voilà, donc Seth et Hattie partent, c'est le kilomètre zéro au début du roman, faire la route. Voyage d'environ 4 heures à imaginer cette Los Angeles, Las Vegas, c'est une grande route, tout va aller bien. Mais quand il a accepté ce deal, il ne s'est pas imaginé les épreuves qu'allait malicieusement, enfin pas exactement, mais malicieusement lui imposer son aïeul. Au départ, cette subit, pardonne, se fâche. Puis commence à comprendre qu'il y a un dessein caché derrière, justement, cette narquoiserie, cette malice, et que c'est juste beaucoup d'intelligence matinée de rouerie quand même. Donc le grand-père doit se ravitailler en alcool. Beaucoup. Il empêche le petit-fils de mettre la clim en plein désert moyave. Et pour l'avoir fait, il fait chaud dans le désert moyave. Et d'étape en étape, il semble se révéler un passager impossible et dur à gérer. Mais rappelez-vous, Ati vient des Inuits, vient de l'extrême nord, vient du pôle. Et dans la civilisation Inuit, il faut passer par beaucoup d'étapes pour devenir un adulte. Et surtout savoir qui on est, d'où on vient. C'est moins idiot qu'on ne le croit au début du roman, avec ses phrases commençant immanquablement par « putain », on imagine évidemment « fuck off », se rend compte petit à petit que ce grand-père ne lui a pas confié que les clés de l'Impala, mais qu'il est en train de lui donner celles pour décrypter son monde, sa famille, ses origines. On imagine sans peine le bout du voyage, mais l'on gardera longtemps en mémoire la nuit dans le désert que décrit magistralement Gildas Guyot. C'est le deuxième roman de cet écrivain. On avait beaucoup aimé, et d'ailleurs on l'avait interviewé à l'époque dans cette radio, pour le très étrange « Le goût de la viande » paru chez le même éditeur, je crois il y a 2 ans à peu près. MacTac nous surprend et nous ravit tout autant, tout en faisant vibrer d'autres cordes d'émotion. Un road trip, un conte initiatique, un roman sur la passation, c'est surtout ça, un roman sur la passation. Un récit à tiroir que l'on a plaisir à découvrir, tranquillement, en faisant un bout de chemin, assis à l'arrière de la Chevy avec Seth et Ati. Des moments qui vont rester longtemps dans l'esprit du lecteur, parce que de beaux moments de vie. Et parce que l'écriture de Gildas Guyot, c'est un pur plaisir. Ciselé, poétique, drôle, ironique. Allez, je vous en lis encore un extrait, le tout début. C'est l'aube. Aride et tiède, déjà. Une lumière rasante arrache à la terre les contours cuivrés des stigmates de plus de 2 siècles de sédentarisation. Les pavillons, les voitures, les poubelles et les antennes paraboliques se délestent petit à petit de la sombre couverture qui les avait rendus abstraits. C'est l'heure des instants. Celui où l'éclairage public se commute en éclairage individuel. Celui des interrupteurs qui cliquent, des yeux qu'on frotte, des cheveux qu'on ébouriffe, des pieds qu'on traîne de la lampe à la cafetière, du goutte à goutte de jus de chaussette qui se met en marche, tic-tac, plic-ploc, tic-tac, plic-ploc, puis les instants s'allongent. Voilà, je rappelle le titre, MacTac, je vous laisse découvrir ce nom inuit dans le roman, roman donc de Gildas Guyot, roman qui est sorti aux éditions Inuit au début septembre.
Et si vous voulez le chercher, MacTac, ça s'écrit M-A-K-T-A-A-Q.
Voilà, vous pouvez chercher sa signification, voilà, bien sûr, voilà, avant de vous le procurer. Et je t'ai demandé, Jacques, de me trouver une musique qui illustre donc cette fameuse route et ces moments, ces endroits mythiques que sont Los Angeles et Las Vegas pour beaucoup de gens qui font de la musique.
Donc en fait, j'ai choisi d'écouter le Rat Pack, c'est-à-dire Dean Martin, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr., dans une chanson que vous reconnaîtrez sûrement, et sinon on vous dira le titre après. Le Rat Pack à Vegas. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying that someplace is here. If I had you in my shower, then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody.
Somebody loves, somebody's a man. And all of my dreams were overdue.
Excuse me, Jerry.
Took your shirt away, huh?
For someone like you. If I had it in my power, I would raise for every girl to have your charm. Then every minute and every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams were overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
Bon, vous aurez tous reconnu, enfin du moins les moins jeunes d'entre nous, la chanson célèbre de Dean Martin, Everybody Loves Somebody.
Alors je reprends la parole pour dire que dans le livre Matak, c'est très riche, c'est comme je l'ai dit, un roman plein d'entrées, et il y a beaucoup, beaucoup les mythes américains, et donc cette chanson l'illustre parfaitement. Voilà, on va un petit peu changer d'ambiance, mais rester dans le continent nord-américain.
Voilà, on reste effectivement en Amérique du Nord, mais on remonte un peu au nord, avec un roman canadien. Je devrais même dire plutôt un roman québécois, dont le titre est Amki et l'auteur Eric Forbes.
Amki, faut que tu donnes, tu as dit Matak.
Donc Amki, ça s'écrit A-M-Q-U-I, et Amki, eh ben, c'est une ville de Gaspésie située à environ 600 km de Québec et à peu près autant de Montréal. C'est une ville sur la rivière Matapédia, une ville dont le nom pourrait signifier là où l'on s'amuse. Et effectivement, dans ce livre, on va s'amuser quelque peu. Bien que l'histoire que nous raconte Eric Forbes soit assez horrifique et que les personnages soient peu, voire pas du tout sympathiques. Qu'en est-il exactement ? Eric Chénier sort de prison. C'est un jeune homme, la trentaine. Il est libraire et collectionneur de romans policiers. Il vient de faire 4 ans derrière les barreaux. Sa relaxe aussi rapide l'interpelle, mais c'est une aubaine dont il va profiter pour se venger de ceux qui l'ont mis au trou. Et gaffe à ceux qui se mettront sur son chemin. Il ne laissera personne entraver sa soif de vengeance. Et le vieux chauffeur de taxi, qui au tout début du roman le charge à la sortie de prison, en fera les frais.
C'est le premier.
J'ai oublié de préciser, le vieux chauffeur de taxi pédophile. Ce qui fait que quand il prend du coup, ça nous gêne moins. Et tous ceux qui seront à ses trousses, ça sera à peu près la même chose. Et il va avoir à ses trousses par contre, lui aussi, Denis Leblanc, qui est un vieux flic alcoolique et déprimé, mais malgré tout, terriblement efficace.
Alors, terriblement efficace, moi, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire dans ce livre. Je crois que c'est quand même la première fois qu'un flic qui va perquisitionner dans une maison va piquer des bières dans le frigo de la maison perquisitionnée.
Par exemple, c'est haut
en couleur.
C'est exactement ça. Alors, le roman, en fait, ne pourrait être qu'une espèce de chasse à l'homme classique ponctuée d'une série de cadavres plutôt bien assaisonné.
Un road trip, en fait.
Voilà. Mais en fait,
mais trip, T-R-I-P-E-S.
Exactement. Puisqu'il y en a quelques-unes qui s'échappent de nombreux bellies, comme ils disent là-bas les Américains. Mais l'auteur est bien plus malin que ça. Sa narration est à la fois au plus près de l'action et terriblement distanciée. Ce qui fait qu'on n'a qu'une scène de tabassage ou un meurtre au couteau prête plus à sourire qu'à l'effroi. Je peux vous... C'est un court exemple. Marco atterrit sur le lit. Mais une partie de son crâne qui s'était détachée refusa de suivre le mouvement. Ou encore quelques pages plus loin, la braguette béante, Chénier entrebâilla la porte et s'écarta. L'imberbe apparut dans l'ouverture, le regard interrogateur. Puis affolé, la carabine s'exprima. Le faciès du vivant explosa. Et il s'effondra comme si on lui avait scié les jambes à la hauteur des genoux. Chénier l'enjamba, émergea des toilettes. Le chauve se tenait à l'extrémité du couloir, les mains dans les airs, médusé. « Tirez pas, j'ai des enfants !» Chénier remonta sa braguette d'une main et s'approcha obligeant Gros Bill à reculer vers le salon où un désordre innommable régnait. Et à qui dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, c'est dans cette ville dont est originaire Chénier que tout a commencé, et bien évidemment, c'est dans cette ville que ses pérégrinations vengeresses vont le mener et probablement se terminer. Vous avez compris, amis auditeurs, ce n'est pas du tout un thriller, mais un vrai roman noir dans le style de certains polars de la série noire des années 40-50. Sauf que, bien sûr, il y a des voitures rapides, des téléphones portables, etc., mais ça ne change pas grand-chose. Un truc à la Goodies, à la McBain, ou parfois même à la Mickey Spillane. Oui, je sais, Mickey Spillane n'a écrit qu'un seul roman à la série noire, mais néanmoins.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a toutes ces références qu'un amateur de romans noirs va voir de manière transparente, mais c'est que nous sommes en Gaspésie, donc c'est d'autant plus savoureux que l'auteur utilise les clis, les pies,
les ciboires.
Les ciboires, avec un naturel qui décale complètement le propos.
Et c'est pas du tout pour faire exotique ou pour faire. C'est exactement là sa façon et c'est leur façon de parler. D'ailleurs, Eric Forbes s'amuse aussi, comme tu le disais un peu, dans certains passages, dans certaines pages, à écrire un passage à la manière de les auteurs que j'ai cités ou d'autres qu'il aime bien.
Oh bah d'ailleurs, il y a le chat de Chénier, il s'appelle Marlowe.
Voilà, par exemple.
Voilà, donc aussi autre hommage à Chandler.
Alors, il faudrait préciser plutôt que comme son personnage, Eric Forbes, l'auteur, est lui aussi libraire et collectionneur de romans policiers. La seule chose qu'on souhaite ou qu'on espère, du moins, c'est que ce roman ne soit pas, disons, un roman d'autofiction, comme certains ou certaines ont l'habitude de nous faire à la rentrée.
Il ne fait que collectionner des livres.
Voilà, oui. Non, mais on peut supposer, comme lui, il est toujours en liberté et qu'il écrit, que ce n'est pas tout à fait ça.
On aimerait bien le rencontrer, d'ailleurs.
Oui. Et j'ai oublié de préciser, donc, ce roman Amki de Rick Forbes est publié aux éditions Le Mot et le Reste, excellentes éditions marseillaises, est réédité parce qu'en fait la première parution a été évidemment faite par un éditeur québécois.
Et ça n'a pas traversé l'Atlantique.
Ça n'a pas traversé l'Atlantique, c'est souvent assez compliqué. Donc voilà, le roman date de 2017 et là de ce début de cette fin d'été ou début d'automne, Au Mot et le Reste, Rick Forbes, Amki.
Un petit peu de musique pour illustrer cette cavale incroyable en Gaspésie.
Oui, donc, comme on ne recule devant rien, de noir, vous savez, du peu de temps que vous écoutez, on a choisi un groupe de rock
québécois.
Plus que canadien, autant canadien, mais québécois. Ils existent plus, c'est un groupe des années 70 qui s'appelle Ville Elmar Blues Band. C'est du rock, entre rock psychédélique, prog, blues, funk. Et le morceau que nous allons écouter, enregistré en live, et vous allez remarquer que l'accent est bien québécois, mais il chante en anglais, et le morceau s'appelle « That ain't no way to be ». Il n'y a pas d'autre chose à être, enfin, on ne peut pas être autrement, disons. Oh. Ville Elmar Blues Band.
Je pense qu'on aurait besoin d'une petite tune de rock and roll. Here we go, Marlon! Beautiful, can't you see that?
après ce morceau, moi, je vais vous parler d'une mauvaise graine. Mauvaise graine, c'est le titre du roman. Et ce livre débute avec un lendemain de cuite monumental. Quand, je cite, « le cerveau fait l'effet d'une boule de chair à vif, pas plus grosse qu'une balle de ping-pong, ballottée entre les cloisons rugueuses de son crâne, et que, je recite, « elle va se sortir la tête du cul, elle va retrouver ses esprits. » Bref, elle, c'est Julie, qui a manifestement beaucoup trop bu la veille. Julie, c'est une trentenaire genre Bridget Jones. C'est d'ailleurs l'ambiance de toute cette première partie du roman de Nicolas Jaillet, puisque je n'avais pas encore dit le nom de l'auteur.
Tu peux en profiter pour dire le nom de l'éditeur.
Mais d'abord, je vais rappeler le titre. Mauvaise graine, double, voire triple sens de ce mot.
Ah oui, au moins.
De cette expression. Et c'est un roman qui a été édité en juin à la Manufacture de Livres. Donc au début, la description des dîners de filles, les bringues le soir. Je cite, même si vos copines sont le dernier bastion, l'ultime rempart à l'ennui dans vos vies minables. Même si le seul jeu un peu sensuel qui vous reste, à 10 ans de la ménopause, c'est de projeter vos fantasmes dans la vie de vos copines célibataires. Bridget Jones, vous dis-je, matinée de McBeal. Pour ceux qui se souviennent de la première série complètement déjantée à la télévision. Après, le jour, c'est une femme assez banale, moderne, qui s'assume financièrement avec son boulot d'instit. Mais toujours et encore, les copines qui pensent qu'elle a besoin d'un mec, les hormones, elle en a comme tout le monde, donc on lui fait rencontrer des célibataires et justement, ça tourne mal. Nous partageons ainsi la vie tout à la fois morne et mouvementée de Julie. Des purs moments de délire pour l'auteur, comme la visite chez le gynéco, qui signe le glas de la première partie et entame la deuxième, puisque le gynéco lui annonce qu'elle est enceinte. Julie s'interroge, mais avec qui a-t-elle couché? Dans cette fameuse soirée de veuverie? Pas pris de précaution? Et elle est enceinte? Et là, le roman bascule. Ça commence un peu doucement. On ne peut pas imaginer, recherche de paternité, et puis on élimine, c'est pas lui, qui ça peut bien être, et ça va prendre un jour bien étrange. Elle serait le fruit d'un complot, et aurait été, entre guillemets, ensemencée pour donner naissance à on ne sait quoi, on ne sait qui. On n'en dit pas plus, on ne veut pas déflorer toute l'histoire, même si le sel du roman n'est pas, je trouve ici, dans la résolution vraiment de l'intrigue.
Non, mais on ne peut pas le dire non plus, quand même.
Non, bien sûr. Dans cette deuxième partie, ce sont les descriptions, les scènes de poursuite, de bagarre, l'hémoglobine qui gicle, les os qui craquent, les défunts qui jonchent le sol. Enfin, pas que le sol. Julie, étrangement, devient une créature mi-Wonder Woman, mi-James Bond, qui échappe à tous ses poursuivants et, malgré le ventre qui s'arrondit, développe une force et une endurance herculéennes.
Ouais. Elle est aidée pendant un moment, mais ça...
Oui, mais elle est aidée, c'est elle qui porte, hein, oui, je rappelle, dans une scène. Hein. Cette deuxième partie, c'est donc l'occasion pour l'auteur de libérer une verve et un talent dans la narration de scènes gore, tendance frère Cohen ou bien Tarantino, et les rythmes qu'il instille aux aventures de Super Julie. Nicolas Jaillet s'amuse et nous amuse à dépeindre des scènes cinématographiques, des images, et son stylo caméra font vraiment mouche. Je vais vous lire un petit extrait, là c'est un accident. Le van fait une embardée, ils l'ont rattrapé, ils l'ont percuté, 2 fois. Elle essaye de rétablir en tournant le volant, mais ses doigts glissent. Le volant lui échappe, le volant vole, il devient mou. L'espace se disloque, elle ne voit plus la route. Elle ne voit plus rien, puis elle voit tout, avec une netteté renouvelée. Tout se retourne, le pare-brise éclate, et avant de toucher son visage, les éclats de verre se changent en papillons incandescents. La route est toute près. Si elle tendait la main à travers le cadre de ce qui était le pare-brise, elle pourrait toucher l'asphalte qui, bizarrement, lui semble doux et lui fait envie. Elle a du visage sur le visage, elle a du sang sur le visage, partout. Elle le sent ruisseler, chaud, ça tourne. Il y a des étincelles dorées qui fusent sur le parfum, ça crisse. C'est terrifiant et merveilleux. En gros, un roman pour bande, une grande bouffée d'oxygène qui nous fait bien défaut en ce moment.
Oui, d'ailleurs, il y a une scène de un peu avant la fin qui est digne de Die Hard, le premier, avec Bruce Willis, où Bruce Willis serait Julie, quoi. Mais c'est Julie.
Oui,
c'est
ou pas alors...
Avec les meubles. De toute façon, elle est le sang qu'il y a partout, exactement. C'est,
oui, ça ou l'héroïne de Kill Bill aussi.
Oui, hein, oui, un
voilà.
petit peu. Oui.
Mais bon, voilà, c'est la première partie, vraiment... Une petite bluette, quoi, même si les soirées... Oui, bluette n'est pas un bon mot, vu ce qu'elles arrivent à boire et à faire, les copines et Julie. Et puis cette deuxième partie, vraiment tout tournée vers le cinéma, mais qui est un pur régal. Mauvaise graine, Nicolas Jaillet. Donc Nicolas Jaillet, il aime bien la musique, donc qui a été cherché encore...
Là, en fait, j'ai carrément pris une citation du roman, où à un moment, Julie... dans un drôle d'état, et ça lui fait penser à une chanson de Johnny Cash qui s'appelle Ghost Rider in the Sky, une excellente scène d'ailleurs dans le Blues Brothers 2000, mais ça n'a rien à voir. Et donc nous allons écouter cette chanson dans la version chantée par Johnny Cash, Waylon Jenkins, Willie Nelson et Chris Christopherson, The Highwaymen.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged brush and up the cloudy draw.
Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry.
Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear them cry.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies.
Qu'on aime beaucoup dans cette émission. Jacques, tu vas maintenant nous emmener en Italie.
En Italie, dans le nord de l'Italie, avec un roman d'Alessandro Robecchi. Ceci n'est pas une chanson d'amour, c'est le titre. Il est traduit par Paolo Bellomo aux éditions de L'Aube, dans la collection L'Aube Noire. Donc Milan, où on découvre en fait Carlo Monterossi. C'est le créateur et responsable d'une émission de la télé-réalité de la pire espèce à la télévision italienne, mais on doit en avoir les mêmes par chez nous. Cela s'appelle Crazy Love. C'est une émission, Monterossi a créé, mais il veut la quitter. Il n'a pas vraiment de gros remords sur la merde qu'il a fait jusque-là, mais il commence à avoir un peu des états d'âme. Je cite ses paroles. Là où Carlo avait vu la poignante idée de l'inéluctabilité reliée à la profonde inutilité de l'amour, elle avait vu les pubs de lessive et les chiffres de l'audimat. Là où il avait vu des petites Bovary de province et des comptables à la recherche du temps perdu, elle avait vu des contrats, les formats à déposer à la SACD, des négociations avec les maisons de production. Cynisme, la grande télé commerciale, l'incomparable usine à merde, semblait n'attendre que ça. Pendant un an, ils appelèrent le projet. Il voudrait, et donc ce Carlo Monterossi, au moins passer à autre chose. Et il va être servi. Il en a marre de son émission. Et on va tenter de l'assassiner. Mais comme il est chanceux, c'est Bob Dylan qui prend la balle entre les deux yeux.
Bob Dylan, le chien. Non, le chat.
Non, le chanteur.
Ah.
Alors je précise tout de suite, pas Bob Dylan le vrai, qui vit bien tranquille dans sa maison de Malibu. Non, non. Là, en fait, alors qu'il est en train de déguster un verre de Single Malt de la distillerie de Auban, la balle qui lui est destinée pulvérise un cadre sur le mur du salon, un cadre avec le poster de Bob Dylan en 1964. Je vous relis comment il décrit cette scène. La balle qui devait toucher Carlo l'a frappé, lui, juste entre les deux yeux. Il se tenait sur une affiche d'époque, un concert au Village, 1964, quand il chantait que les temps étaient en train de changer, mais que rien n'avait encore changé. Beau, jeune, veste noire, les mains croisées sur sa poitrine, une tête d'ado, pratiquement grandeur nature, protégée par le verre, qui maintenant était éparpillé partout dans la maison. Il faut préciser que le tueur a reçu le whisky, puis le verre dans la figure, ce qui ne facilite pas la visée. Bien sûr, les flics vont intervenir, c'est une personnalité tout de même. Mais Monterossi n'a guère confiance en la police. Surtout que l'un des deux inspecteurs est déguisé comme s'il sortait d'un vieux film de gangster de Chicago, costard à rayures, chapeau et tout le reste. Une fois remis de ses émotions, il décide de trouver lui-même qui lui en veut à ce point et pourquoi. Il va se faire aider par un ami journaliste. Il sera aussi amené à croiser Nadia, une jeune hackeuse maigrissonne. Depuis Stieg Larsson, les hackeuses ne peuvent être que brunes et maigrichonnes. Maintenant, c'est comme ça dans toute la littérature, c'est dommage. En parallèle, on suivra un petit groupe de gitans à l'humeur vengeresse. Alessandro Robecchi raconte toute son histoire, via Carlo Monterossi bien sûr, tout en dérision et en ironie. Carlo se moque en permanence de lui-même. C'est un narrateur assez détaché de ce qui lui arrive, malgré les morts qui se succèdent. La télévision italienne vue par Robecchi est affligeante. Ce qu'il est moins, c'est ce qu'il raconte de l'infiltration des forces d'extrême droite, voire d'ultra-droite dans la police italienne. Mais, malgré tout, l'auteur garde un humour constant dans son récit. Les rapports entre Carlo et Nadia sont souvent irrésistibles. Robecchi ne devient sérieux que quand il évoque les exactions dans les campements gitans dans le nord de l'Italie, ou quand il parle de sa ville, Milan. Le ton devient tout de suite plus grave. Il aime sa ville, mais il n'aime pas ce qu'elle devient sous l'influence des marchés capitalistes et sous l'influence néfaste de la Ligue du Nord, même s'il ne les cite pas nommément. Néanmoins, vous aurez quand même envie à la lecture de ce roman d'aller découvrir les petits coins sympas de cette ville, une promenade dans le quartier des Navilli par exemple. Une autre des caractéristiques sympathiques de ce premier roman d'Alessandro Robecchi, c'est la présence presque permanente de l'œuvre de Bob Dylan. D'ailleurs, il se fait tuer au début. Tout le récit est émaillé de citations du chanteur de Blowing in the Wind. Carlo Monterossi est un grand fan, on peut supposer que l'auteur l'est aussi. Et les extraits des chansons qui émaillent le texte cadrent parfaitement à chaque fois avec l'action ou les réflexions de l'un ou l'autre des personnages. Et que la traductrice a... Elles sont en anglais dans le texte et la traductrice nous a traduit en français, ce qui est quand même plus facile pour la lecture.
Une intertextualité un petit peu particulière.
On va dire ça comme ça.
Voilà, avec des chansons. C'est
voilà, les chansons qui font avancer en fait le récit. C'est donc en fait encore un roman qui donne à sourire dans cette émission. Ce n'est pas si courant dans cette période compliquée que nous vivons. Ceci n'est pas une chanson d'amour, c'est le titre. C'est aussi la naissance d'un nouveau personnage récurrent. Et maintenant que Montalbano a disparu, il va nous en falloir que d'autres viennent prendre la place dans le paysage de la polar italien. Et donc, eh ben, ça risque d'être Carlo Monterossi, car il semble avoir pris goût aux enquêtes, puisqu'en Italie, il en a déjà mené 7.
Bah, c'est un petit peu comme Valerio Varesi, qui n'est pas très loin de Milan, hein, qui est dans le nord, qui est à Parme, avec son commissaire Sonnery. Je parie qu'on va écouter du Bob Dylan.
Eh ben voilà, exactement. Une chanson citée par l'auteur, publiée en 1965 sur l'album Highway 61 Revisited. Ça ne doit pas être comme ça que ça se prononce.
Non.
La chanson, par contre, s'appelle Desolation Row, ça c'est plus proche. Elle fait 11 minutes. Donc, on n'écoutera qu'une partie, évidemment, mais elle colle parfaitement à la situation des personnages au moment où Alessandro Obecchi la cite dans son roman. Je vous laisse aller voir quand. Donc, Desolation Row, Bob Dylan.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket.
Pour terminer cette première émission, je vais vous parler d'un projet. Oui, parce que plus qu'un roman, c'est d'un projet que je vais évoquer maintenant. Un roman inachevé de Boris Vian. Boris Vian aurait eu 100 ans cette année. On imagine ce qu'il aurait à dire sur l'époque que nous vivons. Mais Boris Vian est décédé il y a longtemps, très longtemps. 1959, ça commence à faire. Son cœur fragile ne résistant pas à la vie de son propriétaire, en particulier aux efforts pour souffler dans sa trompinette. Boris Vian arrêta d'écrire en 1953, et dans les projets, alors je ne sais pas s'il en avait beaucoup, mais entre autres dans les projets, il y avait 4 chapitres d'un roman noir, dont il aurait dit, c'est la quatrième de couve qui nous l'apprend, j'ai un sujet de roman policier que j'écris pour Duhamel, entre parenthèses série noire. C'est un sujet tellement bon que j'en suis moi-même étonné et légèrement admiratif. Si je le loupe, je me suicide au ratloukoum et à la banane frite. Pour mémoire, aux côtés de L'écume des jours, ou bien encore des recueils de poèmes comme Les Surprenants quand il est en gelée, il y a les, soi-disant, traductions de Vernon Sullivan. J'irai cracher sur vos tombes, ou bien encore Et l'on tuera tous les affreux. On se souvient que Boris Vian traduisait énormément de littérature de genre à cette époque-là, et il a soi-disant traduit les romans de Vernon Sullivan, qui sont en fait des Boris Vian. Les héritiers de Boris Vian ont donc demandé aux membres de l'Oulipo, l'Oulipo, l'ouvroir des littératures policières potentielles, pour moi c'est policière, non, c'est l'ouvroir des littératures potentielles, de terminer ce roman. Et ceux-ci ont relevé le défi. De toute façon, le collège de pataphysique, l'Oulipo, ça va bien ensemble. Et donc, ce roman, qui s'appelle On n'y échappe pas, est sorti au début de cette année. Cette année qui devait voir nombre de manifestations fêter ce centenaire. Mais une seule petite bête a empêché la majeure partie du programme de se dérouler. Et donc, nous, il nous reste les livres. Dans un livre, il y a d'abord la couverture. Ce roman est édité par les éditions Fayard, mais elle rappelle furieusement celle des éditions du Scorpion, où était éditée la veine polar de l'écrivain français, avec au dos d'ailleurs le joli scorpion. Après, il faut quand même vous résumer l'intrigue. Bien difficile quand c'est Boris Vian qui est l'instigateur du récit et 6 membres de l'Oulipo les rédacteurs de celui-ci. Nous sommes donc en 1950 et le colonel Frank Bolton rentre de la guerre de Corée. Il pourrait se la couler douce, mais son destin est tout autre. En effet, un espèce de serial killer, qui pourrait être lui-même, qui sait, oui, parce qu'un vétéran, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, ça a toujours des idées noires. Mais bon, on ne sait pas. Je disais donc un tueur s'ingénie à éliminer ses ex-petites amies, avec d'ailleurs pas mal de sadisme et de cruauté. Bolton, sur qui pèsent de sérieux soupçons, doit donc enquêter, enfin, du moins essayer. Pour cela, il se fait aider de son étrange ami, Narcissus. Pas la peine d'aller plus loin dans l'histoire, ce sont les scènes, les phrases, les tournures, les notes du soi-disant traducteur qui émaillent le récit qu'il faut déguster et savourer. Par exemple, dans les codes du roman noir, les descriptions de femmes fatales, du genre « elle me dévisagea de son regard pyroclastique ». Ou bien encore, elle portait un fourreau de velours noir qui mettait en valeur des seins parfaits et des hanches un peu trop mobiles pour la tranquillité des spectateurs. Enfin, ah, les seins d'Alice, ils étaient bien deux. Ils avaient à peu près le même poids et le même modelé. Mais leurs points différaient par la couleur et surtout par la réaction sous la langue. L'une qui gonflait et s'étirait en deux coups de cuillère à peau, l'autre qui prenait son temps. Ça m'avait fait marrer, des seins verrons. Voilà. Il y a aussi les références. Par exemple, il y a un des personnages principaux qui s'appelle Sally. On pense à Cugno. Il y a de multiples allusions au roman noir américain, au tough guy type Chandler, James Caan, Peter Cheney. Je cite « Je tirerai à mon tour sur ce salaud qui s'effondrera avec un bruit mat. » Entre balancer une balle ou en prendre une, j'ai toujours préféré balancer. Aussi des références au roman noir français, comme avec Léo Mallet, cette phrase. L'inspectrice en chef n'avait rien perdu de son charme, ni sa chevelure de son éclat. Je vous rappelle, on trouve une phrase équivalente dans le mystère de la chambre jaune. Et puis enfin, mais pas seulement, il y a le jazz, Jerry Roll Morton, Count Basie et le Duke Ellington, bien évidemment. Il est maintenant temps de dévoiler le nom des 6 co-auteurs de ce roman, pas vraiment comme les autres. Donc c'est, je le rappelle, 6 membres de l'Oulipo. Ils ont tous travaillé et séparément et ensemble pour nous fournir ce récit haut en couleur. Donc les 6 noms, Marcel Benabou, dans l'ordre alphabétique, hein, Marcel Benabou, Eduardo Berti, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Clémentine Mélois et Olivier Salon. Voilà, c'est à découvrir. Et puis, pendant que j'y suis, puisqu'on en est au centenaire de Boris Vian, je voudrais évoquer le magnifique, magnifique ouvrage qui est sorti il y a quelque temps chez Futuropolis, L'écume des jours, donc livre que l'on connaît bien de Boris Vian. On connaît aussi les formats de Futuropolis. Ça permet d'avoir un texte magnifique mis en page et surtout, des illustrations de Paul et Gaëtan Brizzi absolument magnifiques. Des crayonnés, des noirs et blancs. Le piano cocktail est absolument magnifique. Des images, des dessins.
Des demi-pages, des pages entières, des juste coins de pages, des doubles pages.
Voilà, des peintures, des fresques magnifiques qui collent parfaitement à ce qu'on imagine être l'univers de Boris Vian. Enfin, c'est ce qu'on pense, mais franchement, ça colle très très bien. Donc ça, c'est quelque chose à garder pour les cadeaux de Noël, parce qu'il va y avoir quand même des cadeaux de Noël en 2020. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission, mais peut-être va-t-on pouvoir écouter quelques notes de jazz.
Quelques notes de jazz, donc tu disais Jelly Roll Morton, Duke Ellington ou Count Basie. Eh bien, c'est Count Basie qui est sorti, et on va écouter un vieux titre. Alors, le son est pas terrible, mais c'est d'époque. Et le morceau s'appelle The Dirty Dozen.
Au revoir, à bientôt.
18-19, le magazine.